Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Eh bien, en ce début d'année 2022, je vous présente de la part de ces deux ailes, c'est évident qu'ils l'ont probablement déjà fait, et de Délivrez-vous, tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite de la joie, de la sérénité, du bonheur avec vos proches, vos amis, de réaliser vos envies, vos rêves, vos désirs, et puis surtout la santé, parce que sans elle, point de projet. Alors, pour débuter cette année, eh bien, je vous propose une belle aventure, un beau roman historique avec un auteur que j'apprécie et je sais que vous l'appréciez aussi. Nous allons aller bien loin, dans des contrées un peu lointaines, mais en ce début d'année, eh bien, cela va faire du bien de voyager un peu, de s'instruire, de se cultiver. Ça a toujours été le but de Délivrez-vous et de ces deux ailes. Voilà, nous allons pouvoir commencer et je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui mon premier invité de l'année. Bonjour José Fraîche.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour votre dernier roman La main du Bouddha aux éditions Ixo. Alors je le dis, je le disais hors antenne et dans le préambule, on vous connaît, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, vous êtes un sinologue averti et passionné, et là vous allez nous entraîner dans une aventure rocambolesque, je dirais colorée également, dans cette Chine et sur la route de la soie. Alors tout d'abord, ça fait un petit peu partie d'une trilogie. Comment avez-vous construit ce livre qui, moi je dirais, qui est une référence dans le roman historique sur l'histoire du bouddhisme et de la Chine sur cette belle route de la soie. Quelle est la genèse de ce livre ?
Alors la genèse, c'est le fait que l'implantation du bouddhisme en Chine est quelque chose de tout à fait inattendu, on pourrait dire de miraculeux.
Oui.
Parce que la Chine, c'est un pays qui est entouré d'une grande muraille.
Oui.
Donc c'est quelque part une civilisation impénétrable qui se contente de ce qu'elle a, qui fait très peu appel aux influences étrangères.
Oui.
Donc c'est un monde en soi, la Chine.
Mm-hmm.
Et tout d'un coup, vers le 4e, 5e siècle après Jésus-Christ, le bouddhisme a réussi à s'implanter dans la société chinoise. Or, le bouddhisme est une religion indienne.
Oui.
Et l'Inde, ça n'a strictement rien à voir avec la Chine.
Mm-hmm. Non.
Et le bouddhisme, c'est une religion du salut, c'est-à-dire une espérance qui est donnée aux croyants, aux fidèles.
Oui.
Le Bouddha enseignant la façon d'effacer la douleur, puisque selon le Bouddha, le monde tel que nous le vivons est un monde de douleur pour les êtres humains.
Oui.
Et si l'être humain veut arrêter de souffrir, veut cesser de souffrir, veut arrêter le cycle des naissances et des renaissances, puisque le bouddhisme croit dans les multiples vies antérieures et postérieures, il faut se convertir, il faut se détacher des biens matériels. Et c'est à partir de ce moment-là, lorsque l'on fait retour sur soi-même, qu'on accède au paradis de Bouddha, qu'on appelle
le Nirvana. Est-ce que l'on peut dire aussi que c'est une idéologie, une philosophie de bien-être ?
Oui, c'est une philosophie en tout cas de bien-être avec soi, c'est-à-dire d'être en paix avec soi-même. D'essayer de s'échapper des contingences matérielles dont nous sommes prisonniers.
Mmh.
Et c'est quelque chose qui était totalement étranger aux Chinois à l'époque. Parce que la Chine, en gros, il y a deux religions principales à l'époque où le bouddhisme va s'installer.
Le confucianisme.
Le confucianisme, donc Confucius.
Confucius, oui.
C'est-à-dire une morale sociale dont on pourrait résumer le projet de la manière suivante. Nous sommes dans une société solidaire les uns des autres et donc l'individu doit s'effacer devant le collectif.
Mm-hmm.
L'individu doit se soumettre à un certain nombre de règles sociales, le respect des anciens, les rituels qu'on se transmet de génération en génération, la solidarité avec autrui, et donc accepter au fond que la société, la collectivité dicte sa loi par rapport à l'individu. J'ouvre une parenthèse, ce qui est toujours le cas de la Chine.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire.
Mais également de pays, de sociétés comme la société de la Corée ou du Japon.
Tout à fait.
Ouais. Même si elles ne sont pas communistes, ce sont des sociétés confucéennes dans lesquelles l'individu s'efface au profit de la collectivité. Donc il y avait le confucianisme, et la deuxième composante de la Chine à l'époque, c'est le taoïsme.
Oui.
Le Tao, la voie, qui est une philosophie de l'existence et qui vise à établir un lien entre l'individu et ce qui l'entoure, la nature, le cosmos.
Mmh.
Et donc, c'est une façon d'organiser son existence par rapport à la nature et par rapport à l'environnement. Donc, ces deux composantes, confucianisme et taoïsme n'avaient strictement rien à voir
avec le bouddhisme.
C'est tout à fait miraculeux que la Chine soit devenue un pays bouddhiste, donc à une époque où le bouddhisme commençait à régresser en Inde. C'est-à-dire, en fait, le bouddhisme a opéré une sorte de translation entre son pays d'origine, qui est l'Inde du Nord, là où est né le Bouddha, autour du Gange,
au bord du Gange,
massif himalayen, au bord du Gange, et la Chine, qui est devenue un pays bouddhiste, et ensuite, de proche en proche, la Corée et le Japon, qui sont toujours de grands pays bouddhistes.
Oui.
Et donc, cette translation s'est opérée de manière tout à fait extraordinaire via la route de la soie.
Et oui, via la route de la soie. Avec ça a véhiculé avec les hommes et les marchandises une forme de mondialisation déjà à ce moment-là.
Bien sûr, bien sûr, parce que les civilisations étaient déjà en rapport les unes avec les autres.
Tout à fait.
Donc la route de la soie, qui est cette grande artère qui relie en gros la Méditerranée à la Chine, elle passait également par le nord de l'Inde, le massif de l'Hindou Kush et les grandes oasis. Et donc, il y avait à la fois les épices qui arrivaient en Chine.
Les épices, les tissus,
il y avait la soie qui repartait vers l'Occident.
Mm-hmm.
Et comme il y avait ces mouvements commerciaux très importants, il y avait des moines bouddhistes qui ont commencé à essaimer de l'Inde du Nord jusqu'en Chine, qui ont créé des monastères et qui, petit à petit, se sont implantés dans des pays que le bouddhisme avait jusque-là totalement ignorés.
D'où le bouddhisme ensuite en Chine. Alors, tout au long de cette route de la soie, dans votre livre, dans votre roman, il y a toute une palanquée de personnages aussi hauts en couleur, extraordinaires. Alors, on va en parler sans dévoiler leur histoire, leur interaction. Alors, je vais certainement en oublier tellement il y en a. Alors, il y a des bonzes qui prônent plutôt la non-violence, bien évidemment. Il y a cette princesse qui tombe amoureuse d'un chrétien. Il y a un roitelet chinois. Alors, expliquez-nous qu'est un roitelet chinois. Alors, un roitelet chinois sanguinaire. Mais qu'est-ce qu'un roitelet chinois?
Alors, à l'époque où le bouddhisme s'est implanté en Chine, la Chine avait été, l'empire chinois s'était disloqué. C'est-à-dire, il y avait eu l'empire, le grand empire fondé par le premier empereur chinois, qui avait ensuite donné lieu à l'empire des Han, en gros, du 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au début du 3e siècle après Jésus-Christ.
Oui.
Et à partir de ce moment-là, la Chine s'est de nouveau disloquée en principauté, qui se faisaient la guerre les unes aux autres. Et donc, je raconte comment l'un des rois de l'une de ces principautés, de Chine postérieure, dont la fille tombe amoureuse, effectivement, d'un jeune chrétien qui lui-même va se convertir au bouddhisme, comment, par ce biais-là, le bouddhisme va devenir, de fil en aiguille, la réunion officielle officielle, la religion officielle de ce royaume. Mm-hmm. Le roi Telet voulant absolument récupérer sa fille, qui lui a échappé. Lui-même, ce roi Telet, ne croyant absolument en rien du tout, mais pour, par amour pour sa fille et pour essayer de la récupérer à tout prix, va faire en sorte que le bouddhisme soit érigé en religion officielle dans son royaume. Voilà un peu le... si on devait résumer l'histoire que je raconte dans La main du Bouddha.
Voilà, on va laisser le soin au lecteur de découvrir tout cela. Alors il y a également un violet très omniscient, une prostituée, et les lecteurs le découvriront, qui est assoiffée de vengeance. Toute une panoplie comme ça de personnages qui est déroulée tout au long de cette route de la soie, qui va circuler, ils vont à qui va arriver un tas de choses.
Oui, ils vont repartir en Inde du Nord pour la recherche d'une relique.
Tout à fait.
Le monastère de la route de la soie.
Le monastère du cheveu avec
le monastère du cheveu. Tout à fait. Possède un des cheveux du Bouddha.
Du Bouddha, oui.
Ce cheveu lui-même ayant été prélevé sur le chignon du Bouddha, et dans le grand monastère de l'Inde du Nord, à Nalanda, donc la contrée là où le bouddhiste, où Bouddha a vécu sa dernière existence terrestre avant de monter au Nirvana. Et donc, dans les monastères bouddhiques, il y a toujours une relique du Bouddha que les fidèles viennent vénérer.
Oui.
Ça a d'ailleurs toujours le cas lorsque, par exemple, on va aujourd'hui à Sri Lanka.
Oui.
Il y a le plus grand monastère bouddhiste actuel.
C'est dans le centre, dans le centre du Sri Lanka, je crois.
Dans le centre du Sri Lanka, qui conserve une dent du Bouddha, qui est promené chaque année sur le dos d'un éléphant sacré.
Oui.
Et donc, il y a des milliers de fidèles qui viennent comme ça se prosterner et prier devant la relique.
Oui.
Car les reliques, c'est quelque chose qui est propre finalement à toutes les religions,
Quel
que soit le temps et l'espace.
Oui. Je crois d'ailleurs le monastère dont vous parlez au Sri Lanka, c'est ce qu'on appelle, et il est dans le triangle culturel du Sri Lanka.
Absolument.
Tout à fait.
À Kandy, dans la ville de Kandy.
C'est ça, tout à fait. Alors, il y a moult rebondissements, bien évidemment, on ne s'ennuie pas. Ce qui m'a étonné, et finalement, on se dit que la banque n'est pas née à Florence au XVe siècle, mais on s'aperçoit également que ces moines, certains moines, donc certains monastères étaient assez riches et aidaient les pauvres. Et puis ils aidaient également les propriétaires fonciers. Donc on s'aperçoit finalement que la banque de prêt, la banque d'aide, elle est née bien avant Florence et bien avant le XVe siècle.
Oui, absolument, parce que le bouddhisme, contrairement à ce qu'on pense, ne méprise pas l'argent. C'est-à-dire que les moines, eux, acceptent les dons. Alors, bien entendu, ils n'en font pas un usage personnel.
Non, c'est pour l'usage de la collectivité. C'est pour la collectivité.
Mais, voilà, ça enrichit le monastère.
Oui.
Donc, le monastère devient propriétaire de fermes, de troupeaux, etc. Et ça profite aux pauvres gens, aux classes les plus pauvres de la société.
Mm-hmm.
Et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles le bouddhisme s'est implanté en Chine, et ça c'est documenté par les historiens, et il y a eu de nombreux ouvrages qui ont été écrits là-dessus, c'est que justement le bouddhisme a joué un rôle de redistribution sociale qui n'existait pas à l'époque, parce que le taoïsme, lui, ne se préoccupe pas de la collectivité, puisque c'est une religion, ou plutôt une idéologie, qui concerne le rapport entre l'individu, donc le moi et la nature, et le confucianisme, lui, est une idéologie de soumission à la collectivité et non pas de redistribution.
Oui.
Et donc le bouddhisme a apporté à une société qui était déjà extrêmement inégalitaire à cette époque-là, une dimension de redistribution qui a évidemment facilité son implantation, parce que les gens pauvres savaient qu'ils pouvaient confier un de leurs fils au monastère pour que celui-ci devienne un moine, un bonze, et ensuite le monastère lui-même redistribuait aux pauvres gens la nourriture qui était donnée par les gens riches et le produit des récoltes des terres qui étaient léguées au monastère par les couches les plus riches de la population qui, en faisant ces donations, espérait avoir un ticket d'entrée pour le nirvana. Vous voyez, étant donné que le Bouddha, lui, demande aux êtres de se dépouiller de leurs biens matériels.
Oui.
Et alors, évidemment, les personnes riches, elles, avaient du mal à se dépouiller elles-mêmes, à devenir pauvres,
de leurs biens,
comme le Bouddha lui-même, mais elles donnaient quand même une partie de leurs biens et de leur fortune au monastère, justement dans l'espoir de pouvoir quand même rentrer au nirvana. Vous voyez, c'est quelque chose qui a été extrêmement important en Chine à cette époque-là.
À cette époque-là. Bien, écoutez, j'espère que ce qui va être important, c'est cette petite pause musicale. Et nous nous retrouvons tout de suite après avec José Fraîche. Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec mon invité d'aujourd'hui, José Fraîche, pour son dernier roman historique, La main du Bouddha, aux éditions Ixo. Moi, j'ai eu le sentiment aussi tout au long de votre livre, dans l'explication du Bouddha né en Chine, de sa philosophie, de cette idéologie, du rapport à l'homme et à la collectivité, que c'était aussi une façon aussi différente d'aimer la nature, que dans toute chose il y avait un esprit, que dans toute chose l'homme pouvait trouver un bien-être, que ce soit dans un arbre, dans la nature, dans ce qui l'entourait, de puiser au fond de lui justement ce bien-être en dehors de ce qu'il était, mais au niveau de la collectivité et au niveau de la nature aussi.
Oui, parce que dans la philosophie bouddhiste, tous les êtres vivants ont la même valeur, que ce soit l'être humain ou les animaux, et même les plus petits d'entre eux, les insectes, voire les microbes, les fourmis, etc. Et donc, contrairement à ce qui s'est passé avec saint Augustin pour les chrétiens, où on nous a expliqué que l'homme était supérieur
à toute chose,
au monde animal, à toute chose. Dans la philosophie bouddhique, l'homme est parti d'un tout dont il n'est pas supérieur. Donc il est parti des êtres vivants, et ces êtres vivants sont à la fois les êtres vivants du monde animal, mais également du monde végétal. Il y a également toute la partie végétale du vivant.
Oui.
Et donc il y a dans la philosophie bouddhiste, dans la conception bouddhiste du monde et de l'existence, cette idée justement que l'homme est la partie de quelque chose qui le dépasse, et qu'il doit absolument s'insérer de manière harmonieuse dans cette globalité. Donc c'est déjà très écologique.
Tout à fait. En fait, il appartient à la nature, et ce n'est pas la nature qui lui appartient.
Absolument. Et il doit la respecter, et il doit s'insérer à l'intérieur de la nature. Et donc il y a comme ça cette modestie de la posture par rapport de l'être humain par rapport à la nature, qui est quelque chose de tout à fait fascinant à explorer, le Bouddha a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ.
Avant Jésus-Christ, tout à fait.
À la même époque d'ailleurs que Confucius.
Confucius,
en Chine.
Oui. Ce qui m'a assez fascinée, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et du coup, de par votre livre, j'ai fait des recherches, je me suis documentée, et je me suis aperçue, de par mes anciennes recherches ou lectures d'autres livres, que cette philosophie bouddhiste était assez proche de la philosophie des Maoris, c'est-à-dire ce peuple qui, dans toute chose, il y a un esprit, un dieu, dans une plante, dans une fleur, dans un brin d'herbe, et j'ai retrouvé des similitudes, cette forme de sagesse, cette philosophie liée à la collectivité, où ce n'est pas la personne propre qui est importante, mais c'est l'autre et la collectivité. J'ai trouvé ces similitudes assez troublantes et assez enrichissantes finalement.
Bon, parce que je pense, si vous voulez, que l'esprit humain, en fait, il traverse tous les âges et il se répand et on trouve des similitudes sur toute la planète, hein.
Bien sûr.
Donc, c'est ce qui est également le cas au Japon avec l'animisme,
Oui.
hein, qui est la religion primitive du Japon, qui précède évidemment le bouddhisme au Japon. L'animisme, c'est justement, la croyance dans le fait que dans chaque arbre, dans chaque montagne, dans chaque source, derrière chaque élément de la nature que l'on voit, il y a un esprit,
Oui.
voire une divinité qu'on peut invoquer, qu'on doit respecter. Et à partir du moment où on la respecte, où on l'invoque correctement et où on lui fait les sacrifices qui sont préconisés par telle ou telle croyance, elle va vous le rendre au centuple. Donc c'est quelque chose qui est présent, en fait, dans toutes les civilisations.
Oui.
On peut imaginer aussi qu'à l'époque des cavernes en Europe,
Oui.
Y compris d'ailleurs chez Néandertal,
Oui.
il y avait déjà cette propension animiste
Oui.
consistant à croire que derrière chaque élément naturel, il y a quelque chose de supérieur, il y a un esprit, une divinité.
Oui.
Et donc, au fond, ça, c'est la preuve que l'être humain a absolument besoin de croire
De croire, oui.
qu'il y a quelque chose de supérieur et qui
Oui.
transcende la réalité telle que nous la voyons et telle que nous la découvrons avec nos yeux et avec nos mains.
De croire en fait qu'il y a quelque chose avant et après, tout simplement.
Absolument,
Ça donne
oui.
une perspective, une racine avant, une perspective après. Ça permet de soutenir parfois l'insoutenable.
Bien sûr.
Alors, je disais, tous ces personnages, tout au long de la route de la soie, je me suis dit, mais Joseph Fraisse, où a-t-il été les chercher? On sent un véritable attachement pour certains, pour certains, pour chacun, avec leur esprit, avec leur histoire. Certaines histoires sont plus émouvantes que d'autres, d'autres plus riches, plus amusantes, avec tous ces rebondissements, ces différentes aventures. Vous les avez rêvées et puis écrites. Comment ça s'est passé, la rencontre avec tous ces personnages?
Bah, moi, j'ai une conviction, c'est que, d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, mais ça a été écrit par des très grands intellectuels comme Claude Lévi-Strauss, hein,
Oui.
que finalement, le cerveau humain, c'est le même, hein, quel
Oui.
que soit le temps. Donc, le cerveau des humains, il y a 5000 ans, était le même que le nôtre aujourd'hui. Et notre cerveau, en France, est le même que celui qu'on va trouver en Amérique latine, en Chine ou ailleurs. Et
Oui.
donc, à partir de là, c'est assez facile d'inventer des personnages qui vont nous ressembler,
Qui vont être intemporels, qui vont être
qui vont être
intemporels.
intemporels,
Oui.
qui vont avoir des réflexes ou des modes d'action que nous connaissons parce que ce sont les mêmes que les nôtres, hein.
Oui. Oui.
Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai dépeint? J'ai dépeint un roi de lait tyrannique, hein,
Oui.
donc les petits tyrans, les petits chefs,
Oui, je
il y en a
vois. Très
partout, hein,
bien.
d'accord,
Le
hein.
vieux lettré omniscient.
Le vieux lettré omniscient, un peu sûr de lui,
Oui.
et qui a pas trop les pieds sur terre, ben, on
Oui.
m'en connaît aussi pas mal,
Oui. La
hein.
princesse amoureuse qui croit au prince charmant.
Voilà, le prince charmant, le garçon un peu
Oui.
tout fou qui veut séduire la jeune fille qui tombe amoureuse, bah heureusement il y en a beaucoup aussi, hein,
Oui,
les couples
voilà.
d'amoureux.
Il
Et puis
y a
ensuite,
même un obsédé sexuel.
il y a un obsédé sexuel, absolument. Et puis il y a aussi les missionnaires, c'est-à-dire
Oui,
les moines
oui.
qui, eux, contre vents et marées, avec des hauts et des bas et des périodes de doute,
hein,
se sont consacrés à une croyance, donc là, en l'espèce, c'est le bouddhisme, et qui vont tout faire, essayer de tout faire pour la faire partager à des personnes qui y sont totalement étrangères. Donc ça, ça s'appelle le prosélytisme.
Le prosélytisme, tout à fait.
Et c'est quelque chose que, ben, on a connu en Europe pendant des siècles avec justement les moines, la diffusion du christianisme en Europe, hein, donc c'est pas nouveau.
L'évangélisation.
Ensuite, ces missionnaires chrétiens, ben, ils sont partis évangéliser aux quatre coins du monde, en Afrique et également en Chine,
hein,
parce qu'il y a eu, en particulier à partir du 15e, 16e siècle, des jésuites qui sont allés en Chine et qui ont joué un rôle extrêmement important, puisque certains d'entre eux sont devenus des conseillers des empereurs de Chine, justement parce qu'ils voulaient diffuser les enseignements du Christ en Chine. Donc tout ça, finalement, ça continue. Hein, ça continue. Et même si aujourd'hui, on est dans une période de déchristianisation en Occident, ça n'est pas du tout le cas des autres régions du monde, où vous avez en particulier les évangélistes qui se développent de manière très importante dans des pays comme le Brésil, hein, et également dans les pays comme en Amérique latine, mais aussi aux États-Unis. Et donc tout ça est quelque chose qui continue, et au fond, moi, ce que je raconte, c'est l'histoire de l'être humain qui est intemporel. Et là, il se trouve que
c'est,
à l'époque où
c'est une histoire, c'est une histoire de l'humanité.
C'est une histoire de l'humanité, et finalement, qui se répète de manière, je dirais, quasi indéfinie.
Tout à fait.
Parce que, chacun le sait, mais même aujourd'hui, à l'époque d'Internet, des réseaux sociaux et de la conquête de la planète Mars, les religions jouent un rôle tout à fait capital.
Bien sûr.
Je dirais, pour le meilleur, et hélas, parfois pour le pire,
oui.
Dans l'époque qui est celle dans laquelle nous vivons en 2022.
Tout à fait. Alors, il y a aussi, il faudra bientôt en conclure, et c'est bien dommage parce que je vous aurais encore écouté pendant des heures, José Fraîche, mais il y a aussi ces bons, hein, qui prônent la non-violence, et je me suis dit, ça aussi, c'était important dans tous ces personnages, parce qu'on a bien besoin de pacifisme, de non-violence et de discours plutôt que de guerre. Et c'était vraiment approprié, ces jeunes bons non-violents.
Ben, c'est-à-dire que le bouddhisme prône la non-violence, bon, comme d'ailleurs le Christ, hein,
bien
prône
sûr,
la non-violence.
Tout à fait.
Et donc le drame d'ailleurs de ces religions qui prônent la non-violence, ça a été d'ailleurs l'un des gros problèmes du bouddhisme, c'est qu'elles sont nées dans des sociétés qui étaient, elles, au contraire, extrêmement violentes. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles le bouddhisme, finalement, n'a pas survécu en Inde, parce que l'Inde, qui est donc le pays d'origine du bouddhisme aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de bouddhistes en Inde, hein, c'est que, par contre, il y a l'hindouisme,
donc,
qui est la religion qui précédait le bouddhisme. Il y a l'hindouisme et les musulmans qui d'ailleurs malheureusement se battent les uns contre les autres
en Inde,
de manière extrêmement
violente
et très préoccupante.
Oui.
Et donc l'une des raisons pour lesquelles le bouddhisme a dû partir de l'Inde et a décliné en Inde, c'est que justement il prônait la non-violence dans un système qui au contraire était malheureusement ultra-violent.
Ultra-violent.
Et donc il y a comme ça cette bataille entre les tenants de la non-violence, de l'amour du prochain, de la grande paix, et ceux au contraire qui n'ont pas encore compris ça, qui s'adonnent à la violence. C'est quelque chose malheureusement que nous vivons
quotidiennement, malheureusement.
Quotidiennement.
Oui. En tout cas,
rien de nouveau, rien rien de nouveau sous le soleil.
Non, c'est ce que j'allais vous dire. En tout cas, cette main de Bouddha, en espérant que ça nous apporte un petit peu aux auditrices, auditeurs, un peu de sérénité et de paix et de joie en ce début de 2022. C'est un livre intéressant, palpitant. Il y a beaucoup aussi de sensualité, même du romantisme. Il y a de l'amour, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Moi, que j'ai beaucoup apprécié, La main du Bouddha aux éditions XO. C'était avec José Fraîche. Je vous remercie infiniment. C'est un joli voyage que vous nous proposez en ce début d'année, plein de couleurs et puis une belle histoire et puis surtout, je le disais, de la culture. Ça fait du bien un petit peu de respirer autre chose. Je vous remercie infiniment, José Fraîche. J'espère vous retrouver. J'ai pas eu le temps de vous demander quels sont vos prochains projets, mais nul doute qu'on vous retrouvera bientôt pour un nouveau roman, sans doute.
Peut-être, on essaye.
Merci infiniment en tout cas. La main du Bouddha aux éditions XO. Merci et prenez soin de vous. Merci. Quant à nous, bien nous nous retrouvons pour de nouvelles aventures et puis ce début d'année. Prenez soin de vous et profitez au mieux de la vie. À très bientôt. Merci. Au revoir.